Je suis en compagnie de Frédéric Sirier. Nous parlons de Betty Book qui vient de paraître aux éditions Vertical. Bonjour Frédéric. Betty Book est la rencontre entre deux personnages que tout oppose, si ce n'est le goût de la lecture et le besoin impérieux de les partager.
Bonjour Dominique, je suis très très heureux de parler de Betty Book aujourd'hui. Alors effectivement, ce livre raconte l'histoire de la rencontre entre un critique littéraire et une jeune femme qui est booktubeuse. Les booktubeuses sont des jeunes femmes qui vont sur YouTube et qui créent une chaîne afin de parler des livres qu'elles aiment sous forme vidéo. Donc finalement, c'est la rencontre entre quelqu'un qui pratique une forme écrite de la critique littéraire et quelqu'un qui pratique une forme vidéo de la critique littéraire. Alors il est tout à fait question dans ce livre de la pulsion du désir critique. Celui-ci va se révéler obscur. Voilà. Le cœur du livre, c'est finalement non pas cet obscur objet du désir, comme l'aurait dit Buñuel après Pierre-Louis, mais cet obscur objet du désir critique.
Alors, un des deux personnages, c'est Stéphane Sorge, alias SS, alias Superstyle, je te cite, un homme de goût, un critique littéraire devant rendre compte pour le bien esthétique et moral de la communauté de ce qui s'est fait de mieux en matière de littérature contemporaine.
Alors effectivement, mon critique littéraire masculin s'appelle Stéphane Sorge. Sorge, en allemand, veut dire le souci. C'est une reprise d'un thème heideggerien qui est le souci de l'être, qui a été exploité par le grand critique littéraire Maurice Blanchot, notamment dans un livre qui s'appelle Le Très-Haut. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil à ce grand génie de la critique littéraire française qu'est Maurice Blanchot. Donc Stéphane Sorge, ça fait SS, effectivement. Parfois il est très méchant, parfois il est gentil. Stéphane Sorge est un nom d'emprunt, c'est un pseudonyme. Lui-même est un provincial qui aime la littérature de manière sincère et avec habileté. C'est un critique de bon niveau. Il vient de la région lilloise et il a fait ses classes là-bas. Il a été formé non seulement à travers ses études, mais dans une revue littéraire qui s'appelle Le Pélican Lettré. Aujourd'hui, on le voit, il a 39 ans. Il pige notamment, au-delà d'un certain nombre de journaux fort médiocres où il prend un peu d'argent, il pige pour le monde des livres et on lui commande une sorte de reportage sur les booktubeuses. Lui, il rechigne un peu, ça ne l'intéresse pas. Finalement, c'est le nouveau monde, la critique numérique que lui considère être une pratique triviale. Et il rencontre une booktubeuse et il s'avère que celle-ci va le snober, va se moquer de lui, le renvoyant à sa réalité de personne, selon ses critères à elle, déjà âgée et finalement périmée. Il va vouloir se venger. Voilà. Donc ce livre est l'histoire d'une vengeance, voilà, à travers, saisie par le prisme de deux critiques contemporains.
Alors tu as dit effectivement que Stéphane Sorge, c'était l'ancien monde de la critique. Voilà comment il présente son métier. À un moment donné, il y a une scène de tribunal. Et il présente son métier ainsi. Mon métier consiste à présenter et évaluer dans la presse écrite des œuvres littéraires récemment publiées pour les porter à la connaissance du public et orienter son goût.
Alors effectivement, la critique littéraire, c'est quelque chose que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup. C'est quelque chose sans quoi la littérature elle-même n'existe pas. C'est donc une fonction de médiation entre le créateur, l'écrivain, mais les bons critiques sont bien sûr des écrivains, des gens qui savent écrire et surtout qui ont l'intelligence interne des œuvres littéraires. Et voilà, leur fonction est de médiatiser les bons textes de la littérature pour le public. Donc en ce sens, la question esthétique devient un enjeu moral. Morale deux fois finalement. Chaque livre a un cœur, au sens où il y a un centre et une dimension éthique. Pour moi, il n'y a pas de littérature sans morale. Mais pour le critique, il y a cette nécessité, cet enjeu moral, éthique, esthétique, de transmettre d'une certaine manière, pour le bien, pour l'intelligence collective, les œuvres qui le méritent. Voilà. Donc il n'y a pas de littérature sans débat, esthétique et morale. Finalement, d'une certaine manière, les deux choses se confondent. On le voit parfaitement aujourd'hui avec la question, que je ne trancherai pas ici, de la réédition ou pas des pamphlets antisémites de Céline. Faut-il rééditer avec un appareil critique chez Gallimard ses œuvres, ou faut-il les cacher en disant tout simplement que ce sont des œuvres ignobles, ce qui est vrai, des œuvres antisémites. Voilà. Mais faut-il aussi considérer qu'une œuvre est une totalité et qu'à ce titre, finalement, abstraire quelques pièces du puzzle géant, c'est condamner le puzzle géant à exister comme puzzle géant. Voilà, je donne simplement cet exemple pour bien montrer l'enjeu de la critique d'une manière ou d'une autre.
Alors, lui, ce personnage, en est conscient. Il va rencontrer Betty Book, la youtubeuse, et elle ne navigue pas du tout dans ces eaux-là, dans ces eaux intellectuelles. Elle n'est inconscient de la théorie, presque, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas théoriquement à ce qu'elle est en train de faire. Et sa manière même d'exprimer ses choix littéraires, elle a des choix littéraires, c'est une véritable liseuse. Elle lit beaucoup, d'ailleurs, elle s'imprègne des œuvres. Elle les vit, presque. La manière de les valoriser est complètement différente de celle de le critique de l'ancien monde.
Absolument, mais c'est une jeune fille très intelligente. Elle a une vingtaine d'années, elle vient de la grande banlieue parisienne, elle habite à Melun. Elle a un petit job dans un salon de bronzage, donc elle fait bronzer les gens. Et sa passion, c'est la lecture d'un genre particulier, les dystopies. Voilà. Alors les dystopies connaissent un succès public actuellement. Elle, c'est son créneau. Alors je ne dirais pas qu'elle n'a pas de discours critique. Elle a intériorisé finalement une sorte d'apocalypse lent et permanent qui serait peut-être la production littéraire qu'elle absorbe. Toujours est-il qu'elle passe son temps à lire des dystopies toujours plus incroyables et elle les présente donc à ses spectateurs. Voilà, finalement, par le prisme de YouTube. Ce qu'on peut dire sur elle sous un angle social, c'est que c'est une battante, c'est une outsider. Alors, elle veut réussir et pour ce, finalement, ce technomédia capitaliste qu'est YouTube est à sa disposition. Alors, concernant les booktubeuses, je me suis quand même un petit peu renseigné, il faut savoir qu'elles sont dans une relation de rupture avec la presse institutionnelle. Elles n'aiment pas les médias classiques et le revendiquent. Voilà. Donc, évidemment, lorsqu'elles rencontrent le critique du Monde, qui n'est pas snob lorsqu'il la rencontre, mais que elle doit spontanément et a priori prendre pour quelqu'un de prétentieux, de vieux et d'inutile, ça fait des étincelles. Elle ne peut s'empêcher de lui dire « Toi, tu appartiens à l'ancien monde, et moi, je suis du nouveau monde. Et la preuve, c'est toi aujourd'hui qui es là pour moi. » Voilà. Il y a une dimension auteuriste très très forte chez les booktubeuses. Ce sont des auteurs, avec un E, ou des autrices, voilà, selon le goût des auditeurs de Radio Campus. On choisira le nom, le substantif que l'on préfère. Elles se mettent en scène. Voilà. Donc c'est aussi une épreuve, une expérience très très narcissique hein, que d'avoir sa chaîne de booktubeuse. Mais Betty, de Betty Book, en est là. Voilà. Mais c'est quelqu'un de brillant. C'est pas du tout l'opposition entre un critique intello en crise et une jeune fille idiote. C'est beaucoup plus compliqué, je pense et je l'espère, que ça, du point de vue de la dramaturgie que j'ai essayé de mettre en place.
Alors cette dramaturgie se met en place par un dispositif. C'est une des caractéristiques de tes livres, Frédéric. C'est-à-dire que tu as parlé d'une histoire de vengeance et effectivement, c'est une histoire de vengeance. Et cette vengeance s'accomplit par un dispositif, le dispositif MICE, monnaie, idéologie, compromise, ego. J'aimerais t'entendre justement sur le dispositif de Betty Book.
Alors effectivement, le livre est composé de 4 parties plus une sorte d'envoi composé des lettres MICE. Alors MICE, en anglais, ça veut dire au pluriel les souris. C'est le concept anglo-saxon pour recruter les espions. Ça veut dire quoi ? On décompose le mot, en fait c'est un acronyme. Par exemple, je veux recruter Dominique de Radio Campus pour savoir tout ce qui se passe dans le bassin d'Orléans. Mais vraiment les choses occultes. Hein. Voilà. Je vais lui donner de l'argent, money. Je vais m'assurer qu'on est en phase intellectuelle idéologique, idéologie. Je vais m'assurer que Dominique ne peut pas me planter en l'inféodant d'une manière ou d'une autre, en le tenant, compromise. Et surtout, je vais jouer sur sa vanité, ego. Voilà. Donc ces 4 lettres forment finalement, de manière extrêmement opératoire, une sorte de concept à l'obscénité totale pour recruter les hommes en jouant sur leur bas instinct. Alors ce mot, ce concept, cette notion, voilà, tout simplement, je l'ai découvert en lisant le magazine d'enquête détective, ça m'arrive 2-3 fois par an, Et en fait, un espion proposé, aujourd'hui à la retraite, proposait son autobiographie et expliquait ce concept MICE. Et j'ai eu une sorte de flash. J'ai trouvé ça tout simplement génial. Et j'ai été frappé par, je crois, la vulgarité et le caractère absolument efficace du concept. Et je me suis dit, mais Frédéric, ça serait parfait que tu exploites dans un texte ces quatre lettres pour proposer quatre parties différentes qui constitueraient finalement un roman. Voilà l'origine de ma découverte de la notion MICE.
Et par ce dispositif va être entrepris la vengeance du critique littéraire de l'Ancien Monde vis-à-vis de cette petite jeune, puisque on comprend bien quand même que les hiérarchies intellectuelles sont bousculées. Dans ton livre, tu bouscules forcément les hiérarchies intellectuelles en confrontant l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Ancien Monde et Nouveau Monde de la critique littéraire, mais aussi cette relation entre, on va dire, une littérature plus intellectuelle, qu'on pourrait appeler une haute littérature, une littérature plus basse, qui pourrait être la dystopie, en fait. Il y a une confrontation, pas seulement d'égo critique, mais ni de manière de faire, la presse écrite et puis celle qui est plus visuelle. Il y a également l'enjeu de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on va valoriser comme livre? Qu'est-ce qu'on va valoriser comme fiction? Il y a vraiment une lutte de valeurs qui nécessite une vengeance, forcément. Il n'y a pas qu'une confrontation d'ego ni de vanité. Il y a une confrontation de monde où c'est presque la survie d'un monde contre un autre monde.
Alors Dominique est un fin lecteur et j'en suis très, très honoré. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un monde de simulacres construits à partir des images. Il y a une novella d'un écrivain argentin qui s'appelle Bioy Casares, que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'invention de Morel. Et son héros, une sorte d'agent secret un peu paumé, rentre dans une machine à images qui fonctionne éternellement grâce à la force des marées, parce qu'il est tombé amoureux de l'image d'une femme qui éternellement vit sous ses yeux sur une île déserte. Voilà. Finalement, mon livre reprend ce motif du désir d'image, mais sur un mode absolument dégradé. À savoir que Stéphane Sorge, ce vengeant, va vouloir, je ne vous dirai pas comment, mais renvoyer la jeune femme dont il entend se venger dans le monde des images. Voilà. Et qu'elle ne puisse jamais en sortir. Que finalement ce soit comme une sorte de, non pas de faute, mais je dirais de naufrage ou de faillite ontologique à jamais, comme un enfer des images. Voilà, donc on est très très proche de la pulsion de mort. Lui a deux pulsions de mort, une pulsion de mort contre la littérature elle-même, puisqu'il n'en lit pratiquement plus, il ne lit que le magazine Détective, alors qu'il a été un critique de très très bon niveau, et une deuxième pulsion de mort qui se superpose, à savoir que finalement, l'au-delà du langage, c'est la désarticulation du langage lui-même par l'affirmation absolue du règne de l'image. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas déflorer l'intrigue. Voilà.
Très bien, donc on ne parle pas de la scène centrale. Tu ne veux peut-être pas en parler de cette manière dont... parce que c'est là où on va dire qu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà lu le livre, par exemple, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de cette manière très à la fois brutale mais en même temps très très pensée dont il va piéger la youtubeuse. Il va la piéger par ses propres moyens, enfin c'est pas rien, cette scène qui est la scène pour compromise, en fait, donc le C de Mice, cette troisième partie qui est uniquement une scène sexuelle, c'est là où il se venge. Et c'est l'objet de sa vengeance, et les moyens utilisés produisent une excitation, pas seulement parce que c'est une scène sexuelle, mais parce qu'elle est jusqu'au boutiste, cette scène. Cette scène, on la visualise très très bien, et elle ne produit pas d'excitation uniquement parce que les corps sont exhibés et qu'il y a du sexe, et que forcément ça c'est excitant, mais il s'y passe quelque chose d'autre d'ordre intellectuel dans cette vengeance. Cette scène est absolument centrale, en fait, dans le livre.
Absolument, Dominique. Alors, petite parenthèse, petit discours, petite précaution, voilà. J'aime beaucoup la littérature érotique et je voulais écrire une partie spécialement érotique dans ce texte, qui soit érotique pour elle-même et qui en même temps s'inscrive dans un processus dramatique. sans quoi cette pièce finalement n'aurait eu aucune importance. Donc c'est la troisième partie du livre qui va faire pivoter l'histoire globale, à savoir que je décris sur un certain nombre de pages un acte sexuel filmé à partir de moyens vidéo, on va dire, illicites, et qui, en creux, pointe, quand bien même ce sont des moyens vidéo, pointe toujours l'importance symbolique du livre dans notre société. Ça a lieu près d'une bibliothèque, par exemple, dans l'appartement de la jeune fille. Et en fait, la source du filmage, c'est un crayon lecteur. Voilà. Donc le livre est toujours là pour finalement ce qui est le tournage du suicide du livre lui-même. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, Dominique, mais c'est ça qui m'a intéressé. Mais si vous voulez, cette pièce, encore une fois, n'aurait eu, non pas que peu d'intérêt, mais aurait été moins forte si elle ne s'était pas inscrite dans un moment dramatique particulier. Voilà. Pour le coup, j'ai été très très proche de Roland Barthes, peut-être, et des Japonais, à savoir je voulais quelque chose où le sexe soit purement dans le sexe. Voilà. Il y a beaucoup d'écrivains qui diluent l'érotisme, voilà, à droite à gauche, etc. Mais finalement, c'est souvent gratuit et pas très habile. Alors, je dis pas du tout que ce que j'ai fait est habile, mais je voulais vraiment qu'il y ait un moment purement et radicalement sexuel dans le livre, et que ce moment soit une sorte d'abîme qui redistribue complètement la dramaturgie générale et lui donne un sens tragique, au sens où il y a un avant, un après, et au sens où, à un moment, l'utilisation de l'image produit un irréversible.
Et cette scène qui nous laisse haletante jusqu'à son point culminant et son point final, qui est la jouissance, elle se termine, et là, tout de suite, arrive la quatrième partie, c'est donc Ego, dans le dispositif MICE, et c'est une longue scène de procès, en fait. C'est le procès, le film est considéré comme un film de revenge porn, il est mis sur Internet, et les deux se font procès mutuel parce qu'ils ont tout à perdre par la diffusion de ce film. Et donc c'est une grande scène de procès avec les preuves, les justificatifs qui sont apportés. Donc c'est quelque chose que c'est une scène là où on n'est plus embarqué visuellement. C'est pas une grande scène, en fait, c'est une succession de preuves, c'est une succession de pièces de tribunal, en fait. Et ça coupe, et l'effet produit justement dans ce coupage, dans cette grande scène de fiction que tu as inventée, cette troisième scène et cette quatrième scène qui n'est même pas une qui n'est plus une scène, quoi. C'est des preuves justificatives de procès. Ça produit un effet, ça.
Eh bien, merci de votre question, Dominique. Et là, je crois vraiment qu'on rentre dans des préoccupations esthétiques intéressantes. Effectivement, la quatrième partie, c'est le déroulé d'un procès, mais pas simplement à travers les discussions entre les avocats, les juges, etc. C'est le déroulé d'un procès, à partir certes de discussions, mais de pièces. L'idée étant qu'à chaque fois qu'on change de nature de texte, se produise une sorte de choc ou de seuil. Voilà. Maintenant, je l'espère, le mouvement dramatique fonctionne parce que, je propose aussi des pastiches, parce que chaque pièce, j'insiste beaucoup sur la question du régime dramatique, parce que chaque pièce fait avancer la dramatique générale. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Donc, je pense que le choc est lié au changement. Finalement, je joue beaucoup. Je propose des surprises. On ne sait pas à quelle pièce on va. Ça peut être un rapport d'huissier, ça peut être un témoignage de psychiatre, ça peut être un témoignage de gens. Mais à chaque fois, on est dans une relation de choc. Voilà. Donc, pour le coup, j'exploite vraiment ce que propose... pas simplement le langage, mais la nature des textes que nous donne le monde du droit, éventuellement le monde journalistique. Je reproduis des articles, par exemple, du journal Détective. Mais je suis très très heureux que vous souligniez cette fantaisie finalement générale et cette idée de choc, qui était celle aussi peut-être que j'utilisais dans mon premier livre Des néons sous la mer. Et je pense que ce livre, qui est mon quatrième, est celui qui est peut-être formellement le plus proche de mon exploration sous-marine, qui était celle donc des néons sous la mer.
Parce qu'avec ce quatrième roman, C'est là où on peut comprendre qu'il y a quelque chose vraiment que tu explores, en fait. Là, on est vraiment... Enfin, c'est là, moi, en tout cas, où je me suis aperçu, pour avoir lu les trois précédents, qu'il y avait une unité par l'utilisation du dispositif, une unité de faire roman, une unité pour faire fiction dans notre monde actuel. Bon, il y a cette notion d'extrême contemporain, mais moi, je ne l'aime pas du tout, cette expression du tout. Néanmoins, on est dans quelque chose qui... On est actuellement dans la société occidentale, alors ça se trouve en France, mais ça peut être transposé dans n'importe quel autre pays européen, voire même les États-Unis. Il y a quelque chose qui est l'action actuelle, comment s'en emparer, comment faire fiction avec, mais en étant malin et en utilisant un dispositif, c'est-à-dire que quelque chose qui non pas surjoue, non pas qui fait juste malin, mais quelque chose qui fait sens avec le style et que le style soit à chaque fois adapté au dispositif. On le sent bien dans les quatre parties de Mice pour Betty Book, ces quatre styles d'écriture vraiment différents aussi. Donc là, cette manière de procéder par ces quatre premiers romans, il y a la question centrale, ça pourrait être comment arriver à faire dispositif à chaque livre pour que ça fasse sens et comment travailler le problème de mais nous faisons quoi comme action dans nos sociétés actuellement.
Eh bien, cher Dominique, je suis très très heureux de me voir poser la question de cette manière. Effectivement, je me sens d'une certaine manière, lorsque je fais un livre, même s'il peut sembler, je ne dirais pas discret, mais même si je fonds finalement les choses pour ne pas être trop spectaculaire, je me sens d'une certaine manière en guerre. Voilà. Donc, à ce titre, je dois plier une forme à la signification que je cherche. Voilà. À partir de là, je peux prendre tout ce qui est à ma disposition dans le monde du langage, mais aussi dans le monde des formes, des textes, etc. Beaucoup de romanciers sont très très brillants, ont éventuellement des idées, ont éventuellement un peu de style, mais finalement je trouve que la meilleure manière, en littérature, je parle bien en littérature, d'affirmer une vision de quelque chose, c'est d'affirmer et d'imposer, pas au sens autoritaire, hein, mais de manifester une forme tout simplement qui exprime ce qu'on a envie de dire. C'est pas facile du tout. Voilà. Et c'est ce que j'ai recherché dans ce livre. Alors, quand même, pour l'histoire de la genèse du texte, j'étais parti sur l'idée de proposer quatre parties de nature différente et qui swingent. Voilà. Encore une fois, avec cette idée de franchir des seuils et sur un mode finalement expressionniste, de créer un effet très très fort sur le lecteur. Voilà, c'est ce qui m'intéresse.
Mais sur, on va dire, le problème général qui t'accapare en tant qu'écrivain et qu'on commence à voir poindre à la lecture de ces quatre romans, j'aimerais t'entendre là-dessus.
Bah alors, il est toujours difficile quand même d'avoir les prétentions de... Je n'ai fait que 4 livres de commenter, voilà. Mais il est bien évident qu'au bout de 4 livres, quand même, il y a peut-être un mouvement général de ce que j'ai écrit qui se dessine. Je pense que de manière assez discrète, je suis dans une relation anthropologique à la fiction, où j'essaye finalement de déconstruire des inquiétudes, tout simplement. La première inquiétude, c'était la question de la prostitution. C'était mon premier livre. Le deuxième livre, c'est la question, les questions finalement du suicide, de la pulsion de mort, de la pulsion de beauté à travers l'esthétique et de la pulsion vénale à travers l'argent. Mon troisième livre, qui a été peut-être celui qui a été le plus difficilement reçu, c'était la question de la lecture de masse qui m'intéressait et de l'aliénation finalement à des modèles néo-religieux finalement au sein du monde capitaliste qui m'a troublé, hein. Et là je m'intéresse finalement au régime du discours critique à l'ère numérique. Donc je pense finalement que je ne suis pas si éloigné que ça des écrivains dont on peut dire qu'ils sont des écrivains à idées, sauf que moi mes idées je veux les cacher pour les fondre dans une forme. L'idée, lorsqu'elle se voit en littérature, non pas qu'elle me déplaise, mais j'ai souvent le sentiment d'avoir affaire à des écrivains qui sont fort peu habiles. Voilà. Et ça me gêne à chaque fois. Donc mes formes peuvent sembler un peu bizarroïdes, etc. Mais voilà, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Même aux confins du trivial, essayer de proposer une puissance de notre situation au monde, qui n'est pas simplement la mienne. Je n'ai pas le sentiment d'être un auteur égoïste, mais voilà, j'espère que je fais partie aussi de cette famille d'écrivains qui regardent hein, tout simplement autour d'eux et qui sont dans une relation forte au présent hein, et qui sont dans une relation de bras de fer au présent. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre, un roman historique, comme on dit, pourquoi pas ? Je n'y ai jamais songé. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui frontalement, c'est de casser l'opacité du présent. Voilà, le monde n'est pas opaque aujourd'hui pour vous et moi parce qu'on a les yeux ouverts si on est réveillé et que le monde est transparent. Et puis la nuit, on a l'électricité. Mais le monde, il est toujours difficile à comprendre. Voilà. Donc si à travers cette petite fiction, Betty Book, j'ai essayé peut-être de pointer quelques symptômes de l'époque en ce qui concerne, je ne dirais pas la dégradation, je dirais les mutations du discours critique et sa reconfiguration dans des lieux d'expression singuliers, j'en serais extrêmement heureux. Mais non pas que je sois plus modeste qu'un autre, tout auteur est un peu orgueilleux, mais je n'aurais pas la prétention non plus d'avoir rédigé une thèse. Un roman est un objet de plaisir. Voilà. Donc mon livre peut se lire parfaitement comme un roman noir ou comme un mélodrame. Voilà. J'aime beaucoup le mélodrame et je ne verrai nulle méchanceté à mon égard qu'on dise tout simplement que c'est un mélodrame entre un homme un peu fatigué et une jeune fille qui a envie de réussir dans la vie.
J'aimerais pour conclure sur ces quatre romans, parler du fait, mais tu l'as expliqué déjà, que tu es contre le démonstratif, tu es contre le roman à thèse. Et c'est peut-être pour ça que je me suis aperçu qu'à la lecture de ce quatrième, que voilà, il y avait vraiment quelque chose qui reliait ces quatre romans, une manière de procéder, parce qu'on est dans la subtilité, effectivement. On est dans le romanesque, on est dans le roman, tu es profondément romancier. Mais ta manière de faire roman est quelque chose qui est très théorisé, qui est très sensé, qui est très réfléchi, mais que tu veux absolument gommer, que tu veux gommer à grands traits pour que ça ne se voit plus du tout. Et c'est vraiment en perpétuelle lutte contre le démonstratif. J'imagine qu'à un moment donné, dans tes brouillons, il doit y avoir ce démonstratif qui est là, ces théories qui sont là, mais que tu ratures rageusement pour ne garder que la substance du romanesque. Hein.
Eh bien oui, Dominique, je pense que c'est très juste. Alors, je ne sais pas si je suis absolument romancier, mais je pense que la romanesque, pour moi, est une forme de pudeur, au sens où je suis gêné quand je produis des discours. J'ai l'impression d'être surplombant, d'asséner des choses aux gens. Voilà. Je suis toujours un peu gêné par les discours, tout simplement. Et je pense que la littérature peut dire beaucoup de choses avec ses propres forces. Voilà. Alors quand j'étais un peu plus jeune, là, j'ai 46 ans quand même maintenant, quand j'étais un peu plus jeune, je lisais pas mal de romans noirs américains, ce qu'on appelle des romans comportementalistes. Et j'aimais beaucoup ça, parce que c'était des romans d'une force de suggestion totale, avec l'utilisation extrêmement simple, calculée, précise et géniale des mots. Voilà. Et je suis très très admiratif de ces gens qui arrivent à libérer finalement de la puissance simplement avec le choix des mots, tout comme un peintre utilise des couleurs s'il a envie de peindre. Eh bien voilà, un écrivain utilise des mots. Voilà. C'est pour ça, encore une fois, que je suis toujours un petit peu gêné par la littérature qui pense au sens où elle revendique la pensée. Je pense que toute littérature, dès l'instant où elle est vraiment littéraire, pense, mais elle n'a absolument pas à revendiquer de la pensée ou à illustrer de manière un peu balourde l'idée. Voilà, la forme, par sa force, doit suggérer l'idée, tout simplement.
Merci beaucoup, Frédéric Sayer.